CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, une table des matières. Des abréviations abscondes. Des renvois ailleurs. Et des notes de bas de page. L'équipe aujourd'hui est constituée de Solarus et d'Ascritch. Notre invité est Pablo Tupin Noriega, contributeur référent à Wikimedia. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. On tira chercher la notice sur internet. Ouais, ouais. Merci. Allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Solarus.
Salut.
Tu vas bien ?
Bien, toi ?
Bon, magnifique. Bonjour Pablo Tupin Noriega.
Bonjour.
C'est un plaisir que tu sois venu
et
pour en parler.
C'est un plaisir d'être ici.
Voilà, tant mieux. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui as la chance d'avoir à portée de main le savoir universel du monde entier, même aux heures de fermeture des bibliothèques. Sans avoir à passer trois plombes à chercher dans les tiroirs à fiches le numéro du rayonnage où est rangé le manuel de la zigounette et du pili-pili pour les nuls. La première encyclopédie à vocation scientifique fut écrite par quelque honnête homme. Dans le sens 18e siècle, celui des Lumières, cette qualité désignait des personnes qui cherchaient la connaissance la plus vaste et exhaustive du monde. Donc cette première encyclopédie moderne, sous-titrée « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » par une société de gens de lettres, fut écrite en une vingtaine d'années sous la direction de Diderot et d'Alembert et parue en 1772. Elle lança un mouvement moderne qui fut imité au Royaume-Uni par l'Encyclopédie Britannica et le Quid RTL pour la rue Bayard. À notre époque moderne, une encyclopédie ne s'écrit plus en réunissant quelques amis de goût pour prendre le thé, mais en invitant tout le monde à y participer pour plus vite la faire grandir. Ce qui, reconnaissons-le, est moins simple qu'avec une tablée de bridge. Gardons l'allusion à l'Ancien Régime pour faire la lumière sur notre siècle. Imaginez si Denis Diderot devait écrire aujourd'hui dans la Wikipédia. D'abord, il commencerait à écrire le texte de sa contribution, bien sûr, et au moment de mettre en forme, il découvre le langage wiki. Oui, cet infâme langage de mise en forme à base de crochets, accolades et quadruples tildes. Bon. Heureusement, depuis 2 ans, il y a enfin un éditeur visuel qui permet de se passer d'écrire en wiki, sauf qu'il n'est pas encore déployé partout. Encore aujourd'hui, vous le trouverez brut de décoffrage si vous utilisez l'application Wikipédia pour mobile et tablette. J'ai essayé ce week-end. Ensuite, il y aura quelqu'un qui passera 3 minutes après en lui laissant l'énigmatique annotation « ref nécessaire » entre crochets.
Ce que j'écris comme précision sur la science ne suffit pas. Ah, il faut donc que je fasse référence à un article publié en dehors de la Wikipédia. Bon, bah, pas de souci, je vais faire référence à un de mes livres. 3 minutes après, le même fâcheux censure la modification en mettant « pas d'autopromo vers ses propres articles ». Vexé comme un poupoudré, Diderot crée un nouveau compte Wikipédia sous le pseudonyme Denis1713 et tente d'ajouter une illustration de son meilleur profil, peint par une vague connaissance à qui il a passé commande pour le dépanner. Hélas, quelqu'un se rend compte que l'artiste n'est pas encore mort et qu'en plus, horreur, malheur, son auteur est un mauvais coucheur, le portrait à son avantage n'est pas libre de droit, ni le paysage en fond, privé de liberté de panorama. L'histoire de ces modifications se perd dans la page discussion où le point Godwin fut atteint dès la 230e réplique en ces termes « Et merde, voilà les grammars nazis qui débarquent ». Pour des raisons d'efficacité, en 2013, la DCRI, alias ses renseignements militaires, a préféré arrêter arbitrairement Rémi Matisse, alors président de Wikimedia France, et quelques autres administrateurs français, afin de corriger les informations secret défense parues dans la Wikipédia. Lequel article, tirant ces informations d'un reportage de la chaîne locale Télé-Loire 7, ce qui en dit long sur l'influence supposée des télévisions locales sur la dangerosité du terrorisme indépendantiste auvergnat. Nous jetterons un voile pudique sur cette affaire d'État, car depuis Rémi Matisse est retourné à ses chères estampes, tandis que plus aucun Français n'est désormais administrateur de la Wikipédia. Ce n'est plus la fuite des cerveaux, c'est le déclassement des élites par intelligence militaire. Il suffit de mettre militaire en général pour pervertir musique militaire, métier militaire. Enfin, ça, je ne sais plus qui l'avait dit, c'était un homme d'État du début du siècle dernier. T'iras chercher dans Wikicote. Enfant du futur immédiat, il faut se souvenir qu'avant les encyclopédies sur Internet,
Avant même les encyclopédies sur CD-ROM, nous, les riches nantis et SP+, disposant des moyens nécessaires pour entretenir une bibliothèque emplie d'ouvrages à couverture en cuir pleine peau, consacrions des moyens financiers pour faire trôner dans nos bibliothèques ces temples du savoir, ce compendium de la connaissance nationale, pour ne finalement s'en servir que moins d'une fois par mois. Et surtout le volume 33 à la plage des planches pleines couleurs anatomiques sur la sexualité humaine. Oui, l'anecdote fait tache, désolé. Mais pourquoi la dite Encyclopédie Universalis a-t-elle disparu ? Est-ce bien à cause de sa dimension papier, une quarantaine de volumes qui pèsent chacun ses 5 kilos, ou ses 3 volumes d'index pour consulter les renvois de pages, ou son business model, avec des commerciaux en porte-à-porte qui vous proposaient de l'acheter en 48 mensualités avec les volumes annuels de mise à jour ? Non. La vraie raison de la disparition des encyclopédies à l'ancienne, c'est que tout un chacun peut consulter gratuitement une encyclopédie moderne et dématérialisée, hic et nunc, n'importe où, n'importe quand, qu'elle s'enrichit à tout moment, car n'importe qui peut la noter, là, et surtout que tout le monde en a la liberté de partager l'information, de la consulter de n'importe où, sans écho à payer, sans dispositif anticopie, sans publicité, et surtout sans parti pris. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à signaler que les retranscriptions écrites sur le site des chroniques de notre programme CPU, sur l'adresse cpu.pm, vous allez finir par le retenir, évitent de lier directement à la Wikipédia, non pas à cause de son supposé manque de rigueur, non, mais parce que des sources de référence plus spécialisées existent, et qu'après tout, mettre un lien soit vers la Conservapédia ou la Désencyclopédie, ben c'est tout aussi marrant à défaut d'être informatif. De sites qui parodient ou insultent la Wikipédia, mais qui se servent du même moteur d'édition. Étonnant, non ?
Démence, responsable,
Curzi, électronique, expérience, connaissance, extrait de l'album Éducation qui est sorti en 2011. Depuis 15 ans qu'elle existe, la Wikipédia est entrée dans les mœurs. Son nom est lâché depuis une dizaine d'années dans les séries télé, en général en VO d'ailleurs. Ils disent « You found it on Wikipedia » et tu lis les sous-titres de la version française, il y a marqué « Tu l'as vu sur Internet ?» Non, oh, TF1, seriously, quoi. Tout journaliste qui a une nécro à écrire, et Dieu sait si ils ont répété l'expérience depuis le début d'année, trouvera même la cause du décès sur les pages, des fois avant l'AFP. Et je ne compte pas les logiciels spécialisés dans le repérage de copier-coller dans les devoirs de lycéens. Oui, il y a un business là-dedans. Le plus dur, c'est de trouver le Wikipédien de référence qu'on pourrait inviter. En fait, il n'existe pas. Par contre, nous pouvons faire venir un animateur de la communauté, considéré comme l'un des formateurs de référence par Wikimedia France. Notre invité est Pablo Turbin-Noriega, photoreporter, journaliste pour plusieurs médias régionaux et référent Wikimedia France.
CPU, carré et petit utile.
Pablo, bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es un des contributeurs dit de référence.
Un des nombreux contributeurs de Wikipédia. Oui.
Voilà. Alors, de référence, veut dire combien il y en aurait en France à peu près ?
En France, alors, tout dépend si on parle de contributeurs actifs ou de contributeurs. Ou de contributeurs qui effectuent une ou deux modifications par
non,
mois.
Non. Solarus, tu piques les notes, là. C'est pas possible.
Non, j'ai juste quelques chiffres.
D'accord, ok.
J'ai juste quelques chiffres parce que je peux pas me souvenir de tous les chiffres qu'on a sur Wikipédia. Des contributeurs francophones qui effectuent au moins 5 modifications par mois, on en a aujourd'hui 300 000. Sur Wikipédia francophone, donc ouais. C'est pas uniquement en France, on va voir en France, en Belgique, au Québec. Donc,
ouais, il n'y a pas de Wikipédia France, il n'y a pas de Wikipédia Belgique, il n'y a pas de...
Exactement, ouais. On n'a pas de Wikipédia France, on a une Wikipédia francophone, donc pour tous les gens francophones. Il n'y a pas de Wikipédia France, ouais. À proprement parler.
Toi-même, quel a été ton premier souvenir d'une encyclopédie ?
Mon premier souvenir d'une encyclopédie
T'as quel âge ? Ça se demande pas. Mais...
Oui, bah écoute, on est entre nous. J'ai 16 ans, voilà, j'ai 16 ans. Et mon premier souvenir d'une encyclopédie...
T'as pas connu donc les encyclopédies papier
comme
tout à
l'heure ? J'ai connu les encyclopédies papier. Je dirais que mon premier souvenir d'un article encyclopédique que j'ai lu, c'était dans le dictionnaire Larousse de 2008.
Voilà. D'accord. Et en fait, t'as quasiment le même âge que Wikipédia, donc t'es vraiment...
J'ai un an de plus quand même.
Ouais, non, mais ça. Enfin, bon. et t'as découvert la Wikipédia, justement. C'était comment ?
Comment c'était ? Au début, c'était pas vraiment très simple pour moi. Tu parlais tout à l'heure de langage HTML. Je pense que c'est d'ailleurs le principal obstacle que connaissent les contributeurs quand ils commencent à contribuer sur Wikipédia. J'ai mis à peu près un an à maîtriser ça. La première chose qui m'a intéressé sur Wikipédia, c'était l'édition, bien entendu, mais il y a énormément de facettes de contribution qui sont possibles sur cette encyclopédie. Moi, ce que j'ai fait quand je contribue activement à Wikipédia, ce qui n'est plus le cas maintenant, je suis référent chez Wikimedia France, donc c'est plus l'aspect de soutien à Wikipédia, mais j'ai découvert la patrouille. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais, c'est très controversé, mais voilà, j'ai fait ça, j'ai fait patrouilleur sur Wikipédia pendant presque 3 ans, et c'était ma principale activité de contribution. Après, j'ai participé à plusieurs projets d'édition, j'ai écrit plusieurs articles, bien entendu, mais c'était le cœur même de mon activité de contributeur sur Wikipédia.
Et du coup, la première contribution que tu as faite ?
Alors. Pour tout avouer, j'en ai absolument aucune idée, mais la première vraie contribution que j'ai faite, alors ça va peut-être t'étonner, mais c'était sur l'article Police Nationale, qui à l'époque était en guerre d'édition, et donc, on en reparlera tout à l'heure, on va expliquer,
ça veut dire que ça n'arrête pas de faire les modifications, de trucs qui s'annulent les uns les autres, et...
Voilà, alors, ouais. Très rapidement, une guerre de... On considère...
Ce qu'on appelle une controverse avec les épées croisées dans l'encyclopédie universaliste.
Voilà, sur Wikipédia, ça s'appelle une R3R. Alors, ça veut dire règle des trois révocations, c'est-à-dire quand il y a trois révocations successives de deux contributeurs qui se s'entre-révoquent, on considère ça comme une guerre d'édition.
D'accord. Sur cette antenne, on a déjà interviewé sur ce sujet Adrienne Charmé-Alix, qui, à l'époque, avant d'entrer donc à Quadrature du Net, était directrice des programmes auprès de Wikimedia France. Mais donc, du coup, je me lasse pas de cette question. Franchement, c'est quoi la différence entre Wikipédia et Wikimedia ?
Alors, Wikipédia est une encyclopédie en ligne. Wikimedia est une association. Bon, alors il faut déjà distinguer Wikimedia, la Wikimedia Foundation, qui est l'association qui chapeaute les projets Wikimedia, dont fait partie Wikipédia, mais il y en a tout un tas d'autres, comme Wikimedia Commons, des images sous licence libre, on en a tout un tas. L'objectif de la Wikimedia Foundation, l'objectif principal, c'est de promouvoir ces projets-là, et de les entretenir, c'est-à-dire de relever les fonds nécessaires à leur entretien. Mmh. Et d'entretenir les serveurs, bien sûr.
Et donc, en fait, c'est une asso qui chapeaute. Il y a une fondation Wikimedia, en fait, au niveau mondial.
Il y a une fondation Wikimedia au niveau mondial. Mmh. Et puis ensuite, on a dans la plupart des pays, alors absolument pas tous les pays, mais dans la plupart des pays, notamment en France, on a ce qu'on appelle un chapter national. C'est donc une association, en l'occurrence en France, c'est une association de loi 1901, c'est Wikimedia France, qui est indépendante de la Wikimedia Fondation, mais qui poursuit les mêmes objectifs.
D'accord. Donc, on parlait de l'encyclopédie. Elle-même, et Wikimedia. J'ai fait une référence à Wikicote, donc qui englobe des citations. Tu contribues, toi, en fait, sur Wikicommons, donc sur les photos. Quels sont en fait les autres projets de ce genre collaboratif qui existent ?
Des projets collaboratifs de Wikimedia, il y en a beaucoup. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le plus connu, le plus utilisé surtout, c'est Wikipédia. Tu parlais de Wikimedia Commons. Alors Wikimedia Commons, ça va être pour tout ce qui est média, donc on va avoir des photos, des vidéos et même des sons, des enregistrements sons sous licence libre. Wikiquote, donc là pour le coup ça va être des citations. On a Wikibooks pour des ouvrages, des livres qui sont sous licence libre et qui sont sous licence libre et qui sont retranscrits donc sur Wikibooks. Et puis on a d'autres projets, disons. Un peu plus originaux, comme Wikivoyage, par exemple, qui est une sorte de wiki des voyages où les gens vont expliquer, vont donner, disons, un retour sur les vacances qu'ils ont passées. Est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il ne faut pas y aller?
Donc en fait, une sorte de guide du retard collaboratif.
Un guide du retard collaboratif, voilà. Mmh. Et puis après, on a des projets qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien, comme par exemple Wikinews, qui va être un média écrit par tous, sous forme de wiki.
Mmh. Où là, c'est beaucoup plus difficile quand même d'arriver à modérer proprement. Mais là, c'est dans ce cas-là, le problème, il est plus sur le nombre de contributeurs.
Le problème, il est essentiellement sur le nombre de contributeurs, mais il se porte aussi sur le fait que les gens ne font pas forcément confiance à un média collaboratif.
Et Par contre, Twitter, tout le monde retweet.
Ah oui, Twitter, tout le monde retweet, ça c'est évident. Mais non. Déjà, oui, il y a un manque de contributeurs évident sur le Wikinews. Il y a vraiment pas énormément d'articles qui sont publiés par jour, d'ailleurs on recherche du monde si ça vous intéresse, mais je pense qu'il y a énormément de médias en France et que les gens préfèrent aller consulter le site de France Info ou de n'importe quel autre média privé plutôt que d'aller regarder sur le Wikinews. C'est un réflexe.
Une remarque sur l'alimentation en contenu de Wikinews. Beaucoup de journaux ne font que reprendre des dépêches AFP. Est-ce que c'est intéressant de faire un wiki avec des news si c'est juste pour reprendre des dépêches AFP ou Reuters ?
Franchement, le fait que le Wikinews ne fonctionne pas s'explique bien évidemment par ce que tu viens de dire là. L'objectif du projet est très sympathique, mais la plupart des médias reprennent des dépêches AFP. Wikinews reprend ce que disent la plupart des médias, donc reprend par la même occasion des dépêches AFP. Mais oui, tu as raison.
D'un autre côté, il y a un projet Wikipédia collaboratif dont on n'a pas parlé, c'est le code lui-même, le langage wiki et donc la plateforme MediaWiki. Actuellement, est-ce que ça ne bouge pratiquement plus parce qu'on a atteint un niveau de stabilité ou il y a encore des gens qui y contribuent ?
La plateforme MediaWiki, donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça qui fournit le code de Wikipédia. Il y a forcément des gens qui travaillent, on continue, on a tout le temps des gens qui travaillent là-dessus, mais on a atteint un niveau de stabilité. Il y a l'éditeur visuel, par exemple, qui a été mis à disposition.
Ça a été une immense avancée.
Ça a été une immense avancée. Bon, d'ailleurs, il y a des choses qui sont à perfectionner, mais c'est déjà intéressant dans le principe même. Mais oui, forcément, il y a toujours des gens qui contribuent sur MediaWiki, mais on a atteint une certaine stabilité, comme tu le disais tout à l'heure, et donc on essaye de continuer à amener des innovations. Pour l'instant, on essaye d'améliorer l'éditeur visuel, entre autres. Et puis,
il y a eu un gros travail qui a été fait aussi sur les applis natives mobiles. On est passé vraiment à une application qui est vraiment étonnante d'usage, alors que c'était vraiment pas gagné quand on voit la version, ne serait-ce qu'il y a un an. Il y a les équipes professionnelles qui travaillent dessus, où ça reste en fait uniquement des bénévoles qui sont dessus, où il y a des rewards ou ce genre de choses.
Alors, écoute, je pourrais pas répondre précisément à cette question parce que c'est absolument pas mon domaine dans l'association, mais je pense qu'il y a des gens au niveau de la Wikimedia Foundation, du coup, et pas au niveau des chapters locaux, qui travaillent sur ce type de projet.
D'un autre côté, l'intérêt de la Wikipédia, c'est sa licence.
Bien sûr.
Très honnêtement, donc c'est la Creative Commons. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, à faire comprendre en fait l'usage de la licence? On va pas parler encore des polémiques sur la liberté de panorama et tout ça, mais moi je me souviens encore voir passer régulièrement des contributions où le mec dit j'offre à Wikipédia la liberté, sinon c'est copyright Intel.
Moi je pense que le travail, enfin, de toute façon, dès qu'on accède à la page d'accueil de Wikipédia, il y a des avertissements un petit peu partout pour signifier de cette licence. Wikipédia d'ailleurs est connue pour la licence Creative Commons sous laquelle elle est écrite, mais tu parlais là tout de suite de problèmes de connaissance de Wikipédia. Moi, j'ai croisé des gens, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, qui ne savaient pas que Wikipédia était écrite par... qui ne savaient pas que Wikipédia était une encyclopédie collaborative. Donc oui, il y a un travail de communication
à faire. Ça, on va en parler, justement. Oui. C'est assez amusant, oui.
Mais forcément, il y a un travail de communication à faire, tout simplement parce que les gens utilisent Wikipédia comme n'importe quel autre site web et qu'il y a quand même une différenciation à faire, notamment au niveau de la fiabilité. On ne se le cache pas.
Ouais, enfin, en tout cas, c'est nettement plus fiable que les sites avec des pubs. Tu risques pas de te faire injecter un trojan dedans en allant dessus. Pour en revenir à toi, honnêtement, sur les contributions, sur ce que tu amènes, est-ce que toi-même, y avoir contribué, ça t'a déjà fait améliorer ton niveau de français, ton expressivité et tout ça?
Alors, je sais pas si ça m'a fait améliorer mon niveau de français, mais dans tous les cas, contribuer sur Wikipédia, ça a été pour moi une expérience très très enrichissante, non seulement parce...
Pourquoi le passé?
Parce que, tout simplement parce que... maintenant, au jour d'aujourd'hui, je contribue de moins en moins à Wikipédia parce que je n'ai plus le temps de le faire. Je suis maintenant chez Wikimedia France, mais bon, je le fais toujours occasionnellement, bien entendu. Hein. Mais non, c'est un rythme beaucoup moins soutenu qu'avant. Mais sur les projets, enfin sur les articles que j'ai, comment dire, non pas écrits, hein, mais sur lesquels j'ai contribué, j'ai appris énormément de choses sur le sujet. Et puis, quand on contribue sur Wikipédia, forcément, on a envie de toucher un petit peu à tout. Et on se retrouve des fois avec des situations qui font qu'on est obligé d'aller se renseigner sur un sujet ou sur un autre. Et oui, en termes de culture générale, j'ai beaucoup appris grâce à Wikipédia et grâce à mes contributions.
Bon. Pablo, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale pour un petit peu respirer. On reprend.
Allons-y.
Vous écoutez Radio Éphémère, CPU, carré petit utile.
I come out before the break of dawn. Seldom do I get home before the DJ plays the last song. Hanging outside watching cars drive by with the booming sisters that appeal to my eye. Inside the jam was ram, now outside is jam. Excitement's in the air cause there's a blunt in my hand. The police are dwelling at the end of the street, looking for a reason to treat us like thieves. In the night, sometimes I wanna fight. I chill with my lady till everything's alright. Yeah, that's another time when I can come.
my sense when I'm out with the brothers. It's down to experience. Put it down to experience, yeah, I break it down, down. Every time I rise to breathe a new day, I thank God for letting me remain on my way to getting paid with experience. The pockets might be empty, but whatever I did last night must have made me worthy of another 24. I gotta make a score with something round the way that I ain't troubled before. I like to keep the vibes local and very vocal. The way she calls my name, she wanna make a phone call. Yo, we're in there, 7 out of 24, still looking to live a little more. I break north to another, that makes me tense. I can't learn by example, it's down to experience. On the list, there is no trouble getting in. Not a how it used tight. I don't wanna be alone. Dark rooms with a boom is where I feel at home. That's why you always see me in the party. I'm having fun, but I don't trouble anybody. The vibe is live, the heat is making me fry. One girl was so wild, she had me singing, ooh, child. Things are gonna get easier tonight. All you gotta do is just hold me tight, swing low. It's a pity that it's so intense, but then again, I guess it's the sound of experience.
Definition of sound, experience. Vous écoutez FMR, CPU, c'est carré, petit et utile. Et nous sommes toujours avec Pablo Tupin Noriega. C'est vrai qu'on a continué à discuter tranquillement pendant la petite pause. Moi,
avant, je me rends compte, il y a un truc qu'on n'a pas parlé quand même à propos de ton expérience en tant que Wikipédien. Quel est le domaine en fait de prédilection, celui où tu surveilles la moindre modification comme le lait sur le feu?
Mon domaine de prédilection. Alors moi, quand j'étais sur... Enfin, j'y suis toujours bien entendu, hein, mais quand je contribuais vraiment, vraiment, vraiment activement sur Wikipédia, j'ai créé le projet Polis. Donc les projets sont des regroupements de Wikipédiens à vocation d'alimenter un sujet très précis sur Wikipédia. Donc là, en l'occurrence, c'était la police. Et donc là, c'était sur ce sujet-là que je contribuais tout particulièrement.
D'accord. Ah ouais, quand même. Une de tes activités maintenant, c'est d'aider les gens à devenir contributeurs. La première chose qui, à mon avis, doit être un peu bizarre finalement pour toi avec le recul, c'est qu'est-ce que, franchement, la réaction des gens quand ils découvrent que la Wikipédia est une encyclopédie collaborative écrite par des gens comme eux?
Bah, on peut quand même souligner le fait que la plupart des gens sont tout de même au courant, hein, on est en 2016 et la plupart des gens savent que Wikipédia...
Non, il y a encore des gens qui envoient des assignations depuis le tribunal, mais ils
ça en effet, oui, mais non, la plupart des gens, surtout ceux qui viennent nous voir pour être appuyés, pour pouvoir maîtriser justement le langage HTML et pouvoir contribuer activement, sont bien entendu au courant que Wikipédia est une encyclopédie collaborative. Maintenant, il nous arrive de faire des formations grand public, des conférences, où on explique les bases mêmes de Wikipédia. Et oui, là, on peut rencontrer des gens qui ne sont pas au fait de cette information, qui est pour le moins capitale au sujet de Wikipédia. On n'en a pas vu souvent. Je t'avoue que quand même, ça reste assez rare. Mais... en général, quand les gens découvrent ceci, la première chose qu'ils nous disent, c'est mais attendez, mais du coup, c'est pas fiable. Voilà.
Le 22 février prochain, donc 2016, Wikipédia lance un MOOC, donc en fait un guide, un cours en ligne multimédia pour apprendre à contribuer. Alors, est-ce que c'est pas aussi un moyen de combattre le fait que le nombre de contributeurs actifs de la Wikipédia est actuellement en baisse?
Honnêtement, je pense que c'est déjà un moyen d'inciter les gens qui ne contribuent qu'occasionnellement, et quand je dis occasionnellement, c'est correction de faute d'orthographe avec l'éditeur visuel sur Wikipédia, à peut-être se lancer un petit peu plus dans la contribution de sujets plus poussés, donc d'articles qui les intéresseraient particulièrement. Après, c'est vrai qu'on a toujours eu un problème majeur sur Wikipédia. C'est assez difficile d'inciter les gens à contribuer. Parce que Wikipédia, c'est très pratique, mais l'utiliser, c'est beaucoup plus pratique que de devoir l'écrire.
Hein. Oui.
C'est un problème qu'on a. Moi, j'aime beaucoup comparer Wikipédia à un bien public. C'est-à-dire que Wikipédia, ça appartient à tout le monde, finalement. L'objectif de Wikipédia, c'est de rendre la culture et les connaissances accessibles à tous. Mais...
Bien commun, pas bien public.
Bien commun, oui, excuse-moi. Bien commun. T'as fait de l'économie ?
Non, mais il y a effectivement une différence entre le bien public qui appartient à l'État et le bien commun qui appartient à tout le monde.
Alors, j'avoue que tu m'as eu. On continue sur bien
attention,
commun.
Attention, il conseille les secrétaires d'État sur le sujet.
Non, voilà. Wikipédia, il faut l'entretenir. La fiabilité de Wikipédia, elle a toujours été mise en doute. Maintenant, on arrive à avoir un site internet qui est de plus en plus fiable, avec des informations de plus en plus sourcées et de plus en plus correctes tous les ans. Mais ça reste quand même assez compliqué d'inviter les gens à contribuer, donc comme je le disais tout à l'heure, parce que utiliser Wikipédia, bah c'est génial, tout le monde peut le faire. Mais pour contribuer sur ce site-là, il faut le vouloir, il faut se lancer, quoi.
Tu as fait une conférence sur le sujet lors de la dernière édition du Capitole du Libre qui a eu lieu, donc c'était en 2014, où tu parlais de qualité de contribution. En fait, c'est quoi la qualité de contribution ?
Mais juste, je me permets de te reprendre. Lors de cette conférence, je parlais de fiabilité en général, au niveau de l'encyclopédie, c'est-à-dire de qualité d'information, bien sûr, mais des moyens qui sont aussi mis en œuvre, ou en tout cas qu'on tente de mettre en œuvre pour assurer une meilleure fiabilité des articles. Et donc tu parlais de qualité de contribution. Je pense que la plupart des gens qui contribuent sur Wikipédia essaient en tout cas de contribuer sur des sujets qu'ils connaissent et qui les intéressent. Une bonne contribution en général, elle est sourcée bien sûr sur Wikipédia. Et puis c'est tout.
C'est tout pour l'instant, donc il suffit qu'elle soit sourcée. Peu importe l'orthographe, la grammaire.
Peu importe l'orthographe, la grammaire, non. bien sûr, il faut que ça soit écrit avec un français correct, mais.
Si on contribue à Wikipédia français, je suppose.
Si on contribue à Wikipédia en français, bien sûr. Ouais. Sinon, il faut mieux l'écrire dans la langue de référence. Mais oui. Je pense que, déjà, tout simplement, contribuer sur des sujets que l'on connaît, c'est peut-être le premier pas à faire.
Les gens qui viennent justement pour ce genre de formation, c'est une tranche d'âge qui est plus présente qu'une autre, ou un genre, ou une catégorie socio-professionnelle ?
Absolument pas, on a de tout. On a de toutes les catégories socio-professionnelles, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées. Non, il n'y a absolument pas de Wikipédien type.
Oui, ça, on l'avait dit, justement. Mais du coup, est-ce que tu tombes plus, en fait, sur les retraités, sur les universitaires ?
Non, vraiment pas. On a vraiment de tout. Des retraités, des universitaires. On a même des profs. Ah oui, on a des profs qui viennent aux formations. Et non, on a vraiment...
Et il y a vraiment des demandes spécifiques, des fois, sur ce genre de formation ?
En l'occurrence, sur les formations en elles-mêmes, souvent les gens viennent avec déjà une idée d'article ou de contribution en tête. Donc on les aide à réaliser l'article qu'ils veulent écrire.
D'un autre côté, c'est vrai qu'on est à Toulouse, on a une chance énorme. Entre autres, c'est l'implication du Muséum d'Histoire Naturelle de ce côté-là, puisqu'ils ont ouvert leur collection pour les inviter à les photographier et tout ça. C'est plutôt précieux. Est-ce que c'est un mouvement qui commence un petit peu à essaimer, justement, que la muséographie, que les institutionnels publics ou privés s'ouvrent de plus en plus, justement, à la collaboration pour aider eux-mêmes leur travail?
Alors, on a des musées comme le Muséum de Toulouse, comme tu viens de le dire, qui ouvrent leur collection aux licences libres, aux photos sous licence libre. Donc, en l'occurrence, pour l'illustration de Wikipédia, mais les photos sous licence libre peuvent bien entendu servir à illustrer n'importe quel article sur le web ou même n'importe quel livre papier. Et puis, on a aussi d'autres musées qui protègent leur collection et qui donc refusent de s'ouvrir à la licence libre en elle-même. Mais oui, il y a des progrès qui sont faits ces dernières années. On arrive à avoir de plus en plus d'institutions, surtout publiques, qui acceptent de travailler avec nous.
Est-ce que c'est pas un moyen pour eux d'outsourcer l'une des plus grandes difficultés muséographiques en soi, c'est taguer, c'est mettre les métadonnées, référencer?
Mais ça, ce sont des Wikipédiens qui le font, alors...
Vous êtes vraiment accueillis à bras ouverts là-dessus?
Et comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment des institutions.
Je crois savoir qu'il y a eu une expérience assez amusante qui a été crowdsourcée et qui a été lancée, qui concernait les fromages.
Oui, le Wiki Cheese, on appelait ça le Wiki Cheese. Alors c'est à l'initiative.
Cheese, c'est pour les photos en plus.
Oui, cheese, c'est surtout pour les fromages. Mais alors en plus. Ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'une fois qu'on a fini de prendre les fromages en photo, on peut les manger. Donc, c'est vraiment super. C'est à l'initiative d'un contributeur, alors parisien si je ne me trompe pas, mais encore une fois, je ne peux pas te certifier l'info. En tout cas, c'est à l'initiative de Wikimedia France, c'est soutenu par Wikimedia France. Et ils organisent donc des sessions, alors là, à Paris, de photographie de fromage. Alors c'est sûr que dit comme ça, bon, ça paraît un petit peu ironique, mais non. L'objectif, c'est bien sûr d'illustrer les articles de Wikipédia sur le fromage et sur toutes les variétés de fromage, et puis de les manger ensuite.
C'est absolument génial.
Juste pour revenir sur ça, ça permet aussi, c'est assez ironique dit comme ça, mais ça permet vraiment d'intéresser des gens parce que c'est des moments de partage. C'est ouvert à tout le monde et il y a eu plusieurs soirées de ce type qui ont été organisées à Paris et qui ont très 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 bien marché.
Il y a aussi, c'est une manière aussi d'appeler à des fonds. Faut pas se le masquer quand même,
oui,
peut-être.
Oui, mais.
Parce qu'il y a des campagnes régulières, on voit Jimmy Wales en haut.
Avec un petit bandeau, donnez-nous de l'argent, mais de toute façon, Wikipédia, c'est très beau, c'est très utile, tout le monde l'utilise, mais il faut bien que ça fonctionne. On n'a pas de publicité sur Wikipédia et on n'aura jamais de publicité sur Wikipédia, c'est un des 5 principes fondateurs de l'encyclopédie.
Tu peux citer les autres rapidement, peut-être ?
Oui, alors on a la neutralité. Donc Wikipédia est une encyclopédie généraliste, c'est-à-dire ça fait référence aux critères d'admissibilité des articles. Je ne sais pas si tu voudras en parler tout à l'heure, mais donc on n'accepte pas absolument tout. C'est-à-dire que si un contributeur veut écrire un article sur lui-même et une biographie sur sa vie, ça ne va pas être accepté. C'est une encyclopédie, donc l'objectif, c'est vraiment de centraliser la connaissance. La licence libre, bien entendu, et puis les règles de savoir-vivre de Wikipédia, qui est le dernier principe fondateur. Donc Wikipédia suit des règles de savoir-vivre.
Joie.
Et donc, joie, exactement.
Pour en revenir donc au financement, au système de financement je crois qu'il est défiscalisé même en France.
Oui.
Et donc, est-ce que vraiment il y a des fois où ça se retrouve vraiment d'une manière limite sur le budget ?
On a toujours... On a forcément toujours besoin de fonds pour entretenir les serveurs, mais aussi pour arriver à lancer de nouvelles innovations, notamment sur MediaWiki. On parlait tout à l'heure de l'éditeur visuel, c'est des outils qu'il faut développer. Il faut toujours des fonds, il faut entretenir les serveurs, et puis Wikipédia s'agrandit, donc toujours besoin de fonds.
Est-ce qu'il y a des entreprises ou des États qui contribuent financièrement, justement ?
Alors, pas à ma connaissance, mais je ne peux pas t'assurer que non, mais je ne pense pas, non.
D'accord.
Des entreprises peut-être, des États, je ne pense pas.
On va revenir donc à l'acceptabilité des articles. Déjà, c'est l'acceptabilité des individus, avant tout.
Du sujet, avant tout.
Est-il vrai que des fois, certains ont vu devant leur ordinateur des vigiles qui leur ont dit non parce qu'ils portaient des baskets ?
Alors, est-ce que tu pourrais expliciter cette petite pique ?
D'accord, il est encore trop jeune pour aller en discothèque, je crois. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, on entend parler de gens qui sont exclus, qui disent là, Wikipédia, un bias, ils veulent pas de mes articles et tout le reste.
Oui. on a des critères d'admissibilité, mais qui sont très, très, très généraux. Des critères de notoriété. Mais en général, les articles qui sont refusés sur Wikipédia, ça va être un article sur l'épicerie du coin ou sur une biographie de soi-même, où on a même des CV des fois, des trucs comme ça, totalement improbables, qui se retrouvent sur l'encyclopédie, qui sont supprimés, bien sûr, 5 secondes plus tard. Mais oui, les gens râlent, mais on ne peut pas accepter tous les articles sur absolument tout. Et c'est justement le problème d'une encyclopédie collaborative, enfin, un des problèmes d'une encyclopédie collaborative, c'est-à-dire que forcément, on est tenté de publier tout et n'importe quoi, mais tout n'est pas acceptable sur Wikipédia.
Au-delà des articles inédits, on entend souvent des gens qui veulent modifier un petit bout d'article, qui veulent rajouter une précision, et tout de suite on leur dit « Ah ben, c'est pas nécessaire, ah, il faut sourcer », tout de suite on leur saute dessus, et sans vouloir caricaturer, je pense que au-delà de ça, la question c'est est-ce que Wikipédia n'a pas atteint une certaine forme d'entropie ? C'est à un certain stade où il est difficile de modifier l'existant.
Je pense vraiment que non. On n'a pas atteint ce stade-là aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'il y a eu une énorme polémique il y a quelques années sur l'accueil des nouveaux contributeurs sur Wikipédia. Souvent, en effet, on a été confronté à des problèmes quant à leurs modifications qui ont souvent été annulées avec des, tu parlais tout à l'heure de sources nécessaires, bon ben voilà, on a souvent insisté à ça. Il y a eu une campagne interne dans Wikipédia pour essayer d'inciter les contributeurs déjà expérimentés à aider les nouveaux plutôt qu'à les lyncher dès leur arrivée.
Ce qui se passe aussi, je vois le fonctionnement de Wikipédia se fait aussi beaucoup en arrière-boutique. Il y a des espaces de discussion, des pages spéciales avec des appels au vote pour supprimer tel truc, des appels au vote pour ceci, cela. Et j'ai l'impression que c'est ce fonctionnement en arrière-boutique qui n'est pas très connu des nouveaux, qui est peut-être décourageant pour des gens qui voudraient juste passer comme ça sur Wikipédia, modifier quelque chose et repartir en faisant quelque chose, bien sûr, de pertinent. Je ne parle pas des contributions qui ne sont pas pertinentes. Mais il y a tout ce fonctionnement propre à Wikipédia en arrière-boutique qui peut-être peut rebooter les gens.
Alors là aussi, un travail a été fait, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'on a une nouvelle inscription sur Wikipédia, il y a un message qui est envoyé sur la page de discussion du nouvel utilisateur où on l'invite à prendre connaissance justement, tu parlais d'arrière-boutique, mais bon, on va appeler ça les dessous de Wikipédia. C'est vrai que c'est quand même le cinquième site mondial, donc forcément, il faut qu'il y ait une activité de régulation du contenu qui se fait par la communauté, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un travail qui a été fait là-dessus. Tous ces salons dont tu parlais, parce qu'il y en a énormément, hein, des appels au vote de ci, de ça, on en a tout un tas, notamment pour les critères d'admissibilité des articles. Des fois, c'est un petit peu flou. Du coup, on demande à la communauté de se prononcer sur oui ou non, il faut garder ce sujet-là. Il y a toute une page vers laquelle on redirige les nouveaux qui explicite tout ça. Mais alors, forcément, il faut un petit peu de temps pour en prendre connaissance.
Comment on arrive à gérer les trolls? Voire même les falsificateurs. On a parlé tout à l'heure du quid RTL, un dico qui était de référence qu'on trouvait dans tous les bons bars qui voulaient se racheter une connaissance. Mais par exemple, ils avaient repris un tract célèbre de négationnistes. Ils avaient recopié la fin sur donc, le nombre de morts estimés à Auschwitz. Comment on arrive à gérer justement ce genre d'extrémisme, de tentative de réécriture, de négationnisme?
Alors forcément, quand on est face à une encyclopédie collaborative ou à tout type d'ailleurs de projet collaboratif, on a tout le temps des abus de ce type-là. Wikipédia a essayé de s'adapter à ça justement. On appelle ça très généralement le vandalisme dans le jargon Wikipédia. Il y a déjà pour les vandalismes, je dirais très gamin, l'ajout de grossièreté dans les articles, les trucs tout cons, des robots, tout simplement des bots qui s'occupent de les supprimer directement. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle une équipe de patrouille. Bon, c'est des contributeurs aussi, c'est des bénévoles qui sont sur des canaux, donc on appelle ça des canaux live RC, mais bon, c'est des canaux où en fait ils peuvent voir toutes les modifications qui sont faites sur Wikipédia, et dès qu'ils repèrent quelque chose de suspect, une information suspecte, Il la vérifie avec d'autres sources sur Internet et donc essaye de corriger l'erreur. Mais avant que tu me le fasses remarquer, oui, on a forcément des modifications de ce type qui passent entre les mailles du filet. Et ce qui permet souvent de les corriger, c'est justement, et là c'est le paradoxe, que ça soit une encyclopédie collaborative. Parce que le fait qu'il y ait tout un tas de contributeurs qui soient informés sur un sujet, qui passent derrière, fait qu'on se retrouve avec les grosses erreurs sur Wikipédia ne restent jamais longtemps.
Je vous conseille vraiment la lecture. On l'a mis sur la page de l'émission, l'histoire du hoax le plus long sur la Wikipédia qui était fait en fait pour préparer un faux documentaire. Et donc la liste des hoax qui ont tenu le plus longtemps dedans est vraiment passionnante. Surtout quand on arrive à retrouver les archives en question qui y font référence, c'est vraiment pas mal. On est à une ère de communication où malheureusement il y a des services de communication qui sont très actifs, qui font le travail pour des grandes entreprises, des marques, des collectivités locales, des personnalités publiques. Comment on arrive à gérer en fait justement l'envie de certains de réécrire à leur sauce une information, d'y mettre un biais un peu plus favorable?
Alors, en effet, on a eu de gros problèmes par rapport à ça. Il y a eu d'ailleurs une polémique il y a quelques années sur ce problème-là vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique qui ajoutait donc des références à des marques de médicaments sur des articles de santé sur Wikipédia. On est assez souvent confronté à ce type de problème, c'est-à-dire que, en général, ces services de communication, ils ne sont pas très subtils. Ils modifient absolument tout l'article en changeant la ligne éditoriale, bon, qui est une ligne de neutralité. Mais non, en général, on arrive à déceler ce genre de modification. Et puis, de toute façon, ces services, comme tu disais, de communication, n'arriveront jamais à leur fin sur Wikipédia, étant donné que la communauté surveillera toujours ce type de modification. Et l'objectif.
Ouais, et si même les militaires n'y arrivent pas.
Si même les militaires n'y arrivent pas, bon, alors une information, de toute façon, une information classée secret défense ne devrait pas se retrouver sur Wikipédia. Je pense que c'est une erreur de leur part.
Ouais, ni même dans un journal télévisé.
Ni même dans un journal télévisé, mais encore moins sur une encyclopédie collaborative.
Enfin bon, à ce qui paraît une époque, Jean-Claude Bourret avait dévoilé une information secret défense sur la 5, mais personne à l'époque regardait le journal. En attendant, on va justement renvoyer sur toute la masse d'informations. On pourrait parler aussi de ceux qui repompent la Wikipédia, Houellebecq, hein, sans le citer, et tout ça. Là aussi, ce n'est juste qu'une idée de donner l'eau à la bouche à l'auditeur, d'en savoir un petit peu plus. Pablo Tupin-Noriega, est-ce qu'il y a des événements réguliers où on peut rencontrer les contributeurs à la Wikipédia ?
Alors, tout dépend des régions. Alors, en tout cas, en France, nous, sur Toulouse, on essaie d'organiser de temps en temps des rencontres, non pas entre Wikipédiens, mais entre Wikipédiens et grand public.
D'accord.
Et oui, on a des événements de ce type qui se font sur Toulouse. Et on a justement une page sur Wikipédia, la page du groupe local de Toulouse. Il faut taper Wikipédia 2. Toulouse, je crois.
Et rajouteras l'URL.
Je rajouterai l'URL sur la page de l'émission, bien entendu. Et on organise, oui, ce type de rencontre assez souvent.
D'accord. Pablo, merci pour tout. Tu restes là. On va bientôt prendre la suite. En attendant, c'est la sortie des cours.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné. Ça signifie là où est ta nous. La joie vienne, mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Y'a que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie.
Donne-moi ta main,
et prends la mienne.
La cloche a sonné,
ça signifie.
Tu parles, Sheila, que l'école est finie. 1962, vous écoutez FMR.
Ouais,
l'école est finie, mais je crois qu'on va l'envoyer direct à la fac.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Bonjour à tous.
Bonjour, professeur.
Un peu de calme, asseyez-vous, le cours commence. Dans notre métier d'historien, vous le savez, on a besoin de beaucoup de sources, de documents historiques pour retracer les faits et les opinions d'une époque. Et il est un document conçu spécifiquement pour agréger les connaissances de son époque, c'est l'encyclopédie. Les encyclopédies, au début, étaient rédigées par des experts en tout, les philosophes des Lumières, qui devinrent plus tard les philosophes télévisuels et hommes politiques, eux aussi experts en tout, et qui possédait, comme eux, une immense passion pour les droits de l'homme. Mais à la toute fin du XXe siècle, un nouveau genre d'encyclopédie apparut. Une encyclopédie que tout le monde pouvait rédiger, modifier et copier librement. Dès lors, on peut s'interroger sur la valeur d'un contenu librement copiable et redistribuable, car tout le monde sait que les contenus sérieux se vendaient à prix d'or dans les librairies et les revues scientifiques. Cette interrogation est d'autant plus légitime que le contenu qui était écrit l'était par des non-experts. En effet, n'importe qui pouvait éditer des articles sans forcément être un expert dans le domaine, simplement en citant des sources, ce qui n'impliquait pas d'ailleurs de les comprendre ou d'en maîtriser le contenu. Ainsi, Wikipédia réclamait des sources pour justifier de la qualité d'un article, oubliant que si chaque bout d'un article pouvait être justifié par une source, cela ne rendait pas l'ensemble de l'article, vrai pour autant. Un peu comme ces articles de presse en ligne qui ne font que collecter des tweets sans aucune analyse pour se donner du contenu. Cela provoquait régulièrement des guerres d'édition, où le gagnant était celui qui arrivait à rameuter le plus de personnes pour lui donner raison, ou encore le plus tenace qui arrivait à la boue de la patience des autres pour enfin imposer son avis. Au pire, on appelait les wikipompiers à la rescousse, chargés de calmer à coups de lance à eau le contributeur trop énervé. Nous avons retrouvé une partie des bases de données de Wikipédia, et malheureusement la plupart des sources sont aujourd'hui indisponibles. Le phénomène était déjà connu au XXIe siècle. Les journaux web, dans leur course au clic, ne conservaient pas les articles plus de 6 mois. Il était alors difficile de s'en servir comme source encyclopédique. L'autre reproche qui fut adressé à l'encyclopédie était sa trop grande diversité. Ainsi, il était plus facile de trouver le détail minutieux des 7 saisons de Secret Story que l'analyse du livre de Nicolas Sarkozy publié en 2016. C'est en effet une caractéristique de cette encyclopédie. Comme elle a été rédigée au début du XXIe siècle, elle offre un immense contenu sur son temps, bien plus que pour toute autre époque. La seule chose à mettre au crédit de cette encyclopédie a été de permettre à nos dirigeants de réécrire l'information pour qu'elle soit conforme au programme de l'éducation nationale. Les thèses complotistes et les affaires judiciaires pouvaient disparaître d'un coup de gomme magique. Bien sûr, il est resté l'historique des modifications, mais grâce à la loi sur le droit à l'oubli, les hommes politiques obtenaient rapidement l'effacement de ces historiques bien trop bavards. Pour conclure, c'est ainsi que les vaches bleues pondaient des œufs. Hein, quoi ? Qui est venu sur la fiche de mon cours pour la modifier ? Ça vous fait rire, hein ? Eh ben, pour la peine, vous allez me rédiger une rédaction pour la semaine prochaine. Et pensez bien à sourcer vos informations.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Solarus Chief Correcting Officer et d'Ascrit Chief Indexing Officer, et désolé pour la météo qu'on a dû trapper. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio Éphémère. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter, partager, voire même reprendre. Après tout, pourquoi pas, sur la Wikipédia. Prochaine release, le Cloud Souverain. On continue dans la politique et d'ailleurs, il y aura une belle série qui en suivra. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain sur cette antenne et sur nos sites web à partir de 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR analogique, il est presque midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Une connerie à taguer en bas de page là ? Non, pas tout.
Pipi caca.
Non, ça va pas passer, désolé. Bye bye.